Interview.
2 jours.
Absolument.
Allez.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Clément, bonjour.
Salut.
Et Timothée.
Salut Yves.
Tous deux, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'une activité sur laquelle vous vous êtes lancé, la fabrication de briques en terre et paille. Pour cela, vous allez nous expliquer un peu ce cheminement qui vous a amené à cette pratique. Et entre-temps, peut-être, je vais vous demander de vous présenter chacun dans l'activité que vous exercez actuellement.
Donc Clément, moi je suis maçon, je travaille essentiellement dans la rénovation du bâti ancien. Je fais du gros œuvre comme les finitions et dans le bâti ancien se pose la question de l'isolation et comment profiter de nos vieilles maisons et de leur qualité hygrothermique et quand même les isoler avec... une exigence qui est plus importante. Et dans mon parcours, j'ai rencontré d'abord la terre avec les maisons pisées de l'Isère, avec la paille au fur et à mesure, parce que c'est un matériau renouvelable d'avenir qui répond à toutes les problématiques du bâti aujourd'hui.
Et donc je repose la question à Timothée aussi.
Ouais, Yves, alors moi aussi je suis artisan à mon compte. Effectivement, donc moi ça fait depuis que j'ai 17 ans que je commence à travailler dans le bâtiment, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans plein de milieux différents et ayant fait une formation justement dans la restauration du patrimoine, je vais vraiment axer la chose là-dessus, c'est que moi personnellement j'ai envie de me servir des matériaux qui m'entourent, à savoir la paille, parce qu'on est un petit département où comme on arrive encore à produire du blé et des céréales et j'ai envie de pertinence et de cohérence quant à la rénovation du bâtiment existant. Voilà.
Conformément aux normes hydrothermiques du bâti d'aujourd'hui.
Ouais, on va dire conformément aux normes qui sont acceptables pour l'être humain, je dirais, parce que pour l'instant notre produit il n'est pas du tout encore RG quelque chose.
Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de travailler sur un bâti ancien qui a été pratiqué avec un savoir-faire, une science, et de vous retrouver confronté avec peut-être une particularité et donc est-ce que ça vous interroge?
Alors, j'y vais si tu veux. Alors ce qui est sûr c'est que pour ma part, j'ai eu la chance de voyager quand même pas mal en France sur ce qui est rénovation du bâti. On se rend bien compte que tout ce qui a été construit avant le 20e avait de la pertinence car les matériaux venaient de la source la plus proche, donc à savoir du pisé par exemple dans le Dauphiné parce que la terre était présente. Et quand on se retrouve en Provence, on va se retrouver avec énormément de cailloux et de chaux parce qu'on avait ce qu'il fallait dans le coin. Le problème, ça a été dans les années, on va dire, 1900 et post-Deuxième Guerre mondiale, c'était l'apparition du ciment à tous les étages et qui a rendu nos maisons énormément étanches à l'intérieur à cause des enduits ciment. Et du coup, là, on est aussi là pour répondre à une problématique justement de respiration des murs et aussi d'isolation.
J'ai rebondi sur le bâti ancien. On a des maisons qui vivent dans leur jus depuis 200, 300, 500 ans. Aujourd'hui, on a une obligation vis-à-vis de nos concitoyens, de la planète, de les isoler, de cramer moins de pétrole, de bois, de tout ce qu'on veut. Et on doit intervenir sur ces maisons en les isolant. Et aujourd'hui, la norme, c'est le 9. On doit axer notre action dans les bâtis anciens avec beaucoup de finesse, de souplesse, prendre en compte tout ce qui existe. Et là-dessus, il faut que les maisons continuent à respirer. Il faut que les enduits, il faut que les isolants, que toutes les membranes qu'on va rajouter en plastique, au moindre défaut, elles vont pourrir le support derrière. On a toutes ces problématiques et là, on a ces matériaux qui sont anciens, la chaux, la terre, qui ont ce pouvoir de faire passer la, de faire migrer la vapeur d'eau, de que nos bâtiments ils soient sains, qu'ils soient ni trop humides ni trop secs. Et du coup, tous ces matériaux anciens, ils ont de nouveau il faut qu'ils aient la prédominance parce qu'eux, ils vivent en sympathie avec le bâti ancien. Donc nous, on a cette expérience-là dans nos chantiers. Quand on conseille nos clients, on leur dit attention, un placo cache-misère tout étanche derrière, vous allez perdre l'inertie de vos murs en pierre. Il y a toutes ces problématiques. Et la terre paille, c'est un peu la panacée de toutes les exigences qu'on peut trouver dans le bâti ancien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans le neuf.
Alors, je reviens un peu sur le passé, hein, toujours, sur ces bâtiments, ces fermes. Moi, j'ai souvenir de ces fermes avec des personnes âgées qui vivaient et où il y avait une pièce principale avec une cuisinière à bois et qui chauffait toute la maison puisque allumée toute l'année. Elle permettait aussi de faire les cuissons et d'avoir de l'eau chaude. Donc, il y avait en quelque sorte un point de chauffage et qui se propageait à longueur d'année sur ces murs, sur ce bâti. Et donc, ça participait aussi à cette vie du bâtiment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces normes, il n'y a plus justement ce passé, cette mémoire et de cette conception de ces bâtiments ?
Eh bien, cette conception de ce fonctionnement des maisons à l'ancienne, où il n'y avait qu'une seule pièce chauffée ou avec un fourneau qui tournait en continu, eh ben, il n'y avait plus de forêt tout autour et on importait du charbon du nord. Que si les 70 millions de Français fonctionnent comme ça, en fait, c'est mort.
On grille tout. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces conceptions de rénovation, est-ce qu'il existe un cahier des charges techniques écrites ou éditées par une structure
Chaque construction, chaque travaux doit répondre maintenant à des réglementations thermiques. L'ART 2020 actuellement, il me semble, avec des obligations d'isolation, avec énormément de dérogations pour la rénovation. Mais en tout cas, à chaque fois que vous faites des travaux chez vous, vous êtes obligé d'améliorer la qualité thermique de votre bâtiment.
Voilà, et donc vous, votre activité consiste à de l'isolation, entre autres, et avec ce procédé terre-paille, qui nécessite quand même des structures hein, pour accueillir ce matériau. Donc ça, c'est une activité sur laquelle vous travaillez, mais qui a l'air d'être assez difficile, non ?
Alors le fait est que moi particulièrement, moi je travaille dans la rénovation, mais mon boulot en fait il consiste pas énormément à isoler les maisons, notamment parce qu'en fait les matières, on va dire récentes qu'on utilise pour isoler, j'ai absolument pas envie de travailler avec, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que avec Clément on se lance dans cette aventure de créer des BT paille, donc de créer des modules isolants à partir de la paille du coin et d'un peu d'argile, parce que là par contre en revanche c'est une manière. Et une matière que j'ai envie d'utiliser pour isoler. C'est les grands chantiers d'isolation que j'ai fait. C'est majoritairement, en fait, à partir de la paille, parce que c'est vraiment une matière qui me plaît. À chaque fois que j'interviens avec des laines de bois ou d'autres matières, je prends beaucoup moins de plaisir. Bon, ça fonctionne très bien. J'en mets pas en question, l'utilité de toutes ces membranes. Mais, j'aime encore faire des choses qui me plaisent et j'aime atterrir aussi dans une pertinence, une cohérence qui me plaît. Donc effectivement, moi je vais plus aller ouvrir des fenêtres pour ce qu'on a la chance d'avoir de pouvoir faire du gros vitrage. Mais là, j'imagine que si notre projet arrive à terme un jour, je serai vraiment vraiment joyeux de pouvoir mettre en œuvre un produit et qui répondra à mes exigences et en plus, espérons de la facilité. Mais normalement, on tend vers ça.
Alors, avant de continuer sur ces aspects de briques, ce que je voulais savoir, c'est la pratique que vous faites, vous utilisez actuellement avec ces matériaux, qui nécessite pour l'instant des structures, des châssis. Voilà, c'est ce que je voudrais savoir, comment se pratique cette isolation avant votre proposition.
Alors, du coup, nous, la façon dont on travaille avec le terre-paille en isolation actuellement, on vient monter des structures en bois avec des montants à intervalles réguliers qui vont faire un squelette pour notre terre-paille. Après, on vient coffrer soit pour du neuf, on vient faire un coffrage de chaque côté, soit en doublage intérieur où là, on a un mur, une petite ossature et notre coffrage qu'on vient tasser à la main en strates, petit à petit, petit à petit. Et pour donner un ordre d'idée, on part sur un mur classique de 15-20 cm. On compte 1 mètre carré par jour et par personne, ce qui fait des rendements qui sont minables par rapport à la construction classique, où un plaquiste va faire peut-être, 50 mètres carrés de placo dans sa journée avec sa laine de verre. Quand le maçon va monter 20 mètres carrés de moellon dans sa journée, ce sont des chiffres à la con, mais c'est pour donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que pour l'instant, notre technique du terre-paille, elle est cantonnée dans une niche où les chantiers se font avec des bénévoles. Quand je le mets en œuvre, c'est souvent le client qui est convaincu de ce matériau, qui a des amis et qui a envie de partager un moment convivial. Et pendant une semaine, 15 jours, on va venir tasser de la paille dans quelque chose de bon enfant. Et c'est très sympathique. Mais par contre, économiquement parlant, si le client devait payer tous les bénévoles qui sont là, ce serait juste impossible. Ou alors très très cher, cantonné à une niche d'ultra riches.
Alors pour l'instant, là, ce qui est sûr, c'est que là, comme on l'a souligné auparavant, c'est là l'utilisation de la BT paille, elle va être essentiellement, enfin, il faut qu'on s'entende avec Clément, mais elle va être essentiellement sur de la rénovation. Donc à savoir qu'on va intervenir, je pense vraiment en majorité des cas, en intérieur des maisons. À savoir que ce qui fait que les seules choses en fait qu'on aura, qui pourront être à gérer, ce serait passer tout ce qui est réseau électrique et ce qui est réseau d'eau et tout ce qui est évacuation. Donc bon, pour nous, on va dire que ça va être assez simple la mise en œuvre. Pour ce qui est en fait d'ITE, donc d'isolation thermique extérieure, nous on a le fantasme que ça puisse fonctionner. En revanche, il faut quand même que nos produits soient éprouvés et qu'on ait un retour qui soit vraiment vraiment important quant à la conformation de ce produit, quoi. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a souligné Clément, on est au courant que c'est un matériau qui fonctionne très bien parce qu'on a un gros retour d'expérience, hein, et on n'est pas les seuls. Il y a deux bouquins qui ont été édités concernant le terre-paille allégé. On est en plus sur une manière empirique de construire, même si notre mélange il est vraiment allégé au maximum d'argile, ce qui fait qu'il rentre pas effectivement dans tout ce qui est vraiment, on va dire, la construction en terre crue et tout ce qui est adobe épisé, parce qu'on est sur une recherche d'isolant et non pas de structurel.
Cette activité donc vous ont amené aussi à une réflexion sur cette méthodologie à inventer pour isoler avec cette matière qui est la paille et l'argile. Alors comment est arrivée cette idée pour vous ?
Eh ben, c'est ce que tu dis, c'est la méthodologie. C'est que pour l'instant, nous on mettait en œuvre en tassant à la main dans des coffrages et on se fait mal aux mains, c'est long. Et franchement, c'est pas exaltant comme boulot. Quand tu fais ça en bénévole une semaine, 15 jours, c'est cool. Tu fais ça pendant 6 mois de l'année, tu deviens barjot et t'as plus de poignets au bout de 2 ans. Du coup, la partie chronophage, c'est vraiment le tassage. Et du coup, nous est arrivée l'idée de, on va construire des briques, des modules, des choses qu'on va pouvoir empiler. Et arriver l'idée de la BT paille, où on a ce matériau isolant qu'on va arriver, enfin, qu'on doit essayer de contraindre, et c'est la suite du projet, c'est comment arriver à contraindre ce terre-paille en briques et que ce soit suffisamment
dense, cohérent,
isolant, tous les tests du monde à faire dessus,
pour avec
qu'il
une
soit
constance,
facile à mettre en œuvre,
avec une constance aussi,
avec une constance, avec qui puisse répondre à des normes pour l'utiliser à plus grande échelle.
Et que ça soit surtout confort aussi à mettre en œuvre pour les artisans et artisans, et qu'on ait effectivement une régularité sur le produit. Et bon, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Alors, pour cela, vous avez pendant une semaine exercé un atelier de création hein, de ces coffrages, de ces briques. C'était au Seillon, à Montmort-Andivoy. Et c'était chez Thomas et Maude. Et pour cela, je m'y suis rendu. Et il y avait sur place donc vous deux, ainsi qu'Antoine, Delphine et Vivien. Donc tous affairés à chacun à un poste pour cette construction de coffrage. C'est assez fastidieux ce passage.
Qui sont toutes, on va dire, d'une dimension standard, mis à part la largeur.
L'épaisseur.
Ouais, l'épaisseur, excuse-moi. Là où on allait vraiment faire cette colonie, c'est on avait besoin d'avoir des précisions quant à, on va dire, la texture du mélange mis en œuvre. Et donc c'est ça qui nous a permis, au cours de cette semaine, donc à part de faire 60 boîtes différentes, ça a été en fait de tester une variété, on va dire, il y en a presque 24 mélanges différents, de temps de coffrage différents, de macérations différentes. Afin d'aller chercher vraiment la panacée du bloc, donc de la BT paille qu'on recherche, avec donc une épaisseur de 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm d'épaisseur. Et donc là actuellement c'est en train de sécher, on a réussi à décoffrer tous les derniers coffrages, et donc à la suite de ça, donc on va pouvoir se servir des briques en fait qui nous semblent vraiment les plus propres et les mieux. Là on va en envoyer une partie justement dans des labos pour connaître justement la résistance thermique, et nous on va en garder une paire pour réussir à envoyer des enduits dessus pour faire un test de support pour voir comment ça répond.
Alors oui, ces conceptions une fois effectuées, il y a ce passage aussi dans un bureau d'études pour conformer ou peut-être améliorer aussi cette production. Qu'est-ce que vous envisagez sur ces aspects-là ?
Alors, il faut bien voir que nous, là, on est sur l'étape 1 de notre projet. C'est-à-dire que l'objet de cette colonie de vacances avec tous les copains, c'était vraiment de sortir des prototypes pour pouvoir comparer, pour trouver des pistes, pour aller pousser la matière dans ses retranchements et pour avoir une base de données pour après lancer la prochaine étape du process, qui va être de trouver des machines pour faire ce tassage. Là, on l'a fait pour cette session à la main. Dans les tests qu'on va demander sûrement à Cratère, un bureau d'études qui est adossé à l'école d'architecture de Grenoble, qui travaille sur la terre depuis 50 ans, quelque chose comme ça. Il va y avoir le test d'isolation, le test de compression, le test au feu. On va demander en tout cas s'ils sont partants pour ça. Et puis on va surtout se balader avec les prototypes qui nous paraissent le mieux et aller les montrer à tout plein de collègues qui seraient intéressés par le projet.
Ouais, on est quand même pas tout seul dans l'histoire, parce qu'il y a le réseau construction paille est quand même assez énorme en France. On a aussi tout le réseau de terre qui est aussi très très présent. Donc là pour l'instant on est un peu les deux hurluberlus du Diwa qui ne se sont pas trop ouverts au reste du monde. Mais là ça va justement être l'occasion, parce que pour l'instant on a quelques BT pailles qui sont vraiment jolies, et c'est là, voilà. Si on est vraiment satisfait du résultat fini, ça va être à nous, là, maintenant, d'actionner sur la deuxième et troisième étape, qui va être de trouver des financements et de créer un prototype avec des ingénieuses et des ingénieurs pour, en fait, créer une chaîne de montage pour réussir, à passer à l'étape non plus manu militari du brassage de ces tonnes de paille, mais ce serait effectivement de créer un petit prototype pour réussir à nous pondre des modules qui feront toute la même taille, à la même compression, et pour qu'on puisse en fait faire en sorte d'en vivre et de... voilà.
Et qui puisse être peut-être modulable aussi dans la fabrication en fonction des demandes. Parfois, les bâtiments nécessitent une autre matière ou une autre épaisseur ou un autre dosage qu'un autre.
On recherche d'abord quand même une standardisation assez importante de la matière. Après, rien n'empêche qu'une fois qu'on sera sur des acquis et qu'on saura exactement quand la matière répond, on pourrait effectivement, par exemple, pouvoir créer des BT paille qui pourront peut-être venir servir justement au cloisonnement, où on pourrait augmenter justement le taux d'argile, ce qui ferait qu'on aurait une masse un peu plus importante, et ça pourrait être intéressant pour du phonique, des choses comme ça. Mais pour l'instant, moi, c'est vraiment la recherche de standardisation.
Je reviens un peu sur le bâti ancien. Est-ce que vous avez vu aussi peut-être des anciennes isolations avec cette pratique, peut-être pas avec des moulures, mais juste en application murale?
Alors, des enduits avec de la terre et de la paille, ça, on en croise de partout. Ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de constructions qui étaient des granges, qui n'avaient pas un grand intérêt, où les mortiers étaient à base de terre et tout ça.
On a les colombages de base, qui ne se pratiquent pas trop ici, mais les colombages, voilà. C'est la...
Le torchis.
Ouais, sur le colombage qu'on peut retrouver dans le nord de la France, bon, on est sur une utilisation de fibres, quelles qu'elles soient, et de la terre issue du coin, et sur une ossature bois. Donc en fait, on n'invente rien du tout.
Par contre, toutes ces constructions, l'isolation de ces torchis et de ces colombages, il était 10 fois moindre que ce qu'on peut proposer avec notre BT paille aujourd'hui en termes de densité et de capacité d'isolation.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Vous présentiez cette semaine d'expérimentation avec des dosages différents en quantité de matériaux, paille ou terre. Comment s'établit initialement le dosage standard, ou alors est-ce que vous avez essayé divers dosages pour trouver celui qui serait optimal?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'on est... Donc Clément et moi, on est quand même des garçons qui sommes assez empiriques. Donc et même dans les bouquins qu'on peut trouver sur tous les forums, on reste vraiment sur un raisonnement empirique. Donc à savoir mettre sa main dans la barbotine et regarder la transparence ou non justement de la barbotine qu'on a. Donc on rappelle qu'une barbotine, c'est de l'eau avec de la boue. Et cette fois-ci, nous, on a poussé le vice justement, en fait, à aller chercher avec une petite balance très précise. Et ben ces données-là. Donc à savoir exactement, on est à combien de tonnes d'argile, enfin combien de grammes ou de tonnes d'argile on est par rapport à notre mélange. Et on s'appuie justement là-dessus. Donc c'est là où on passe à une étape supérieure et hyper différente, qu'on arrête de faire ça à l'œil et au jugé, et que cette fois-ci on a des valeurs. Et ma foi, il y a du répondant là-dessus. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment joué sur une certaine finesse, parce que c'est là où le terre-paille allégé, il est hyper intéressant, c'est que on est sur un taux d'argile qui est absolument minable, et on a justement, nous, bien gratté sur le côté minable pour justement avoir un matériau le plus léger possible et en même temps qui puisse être suffisamment ourdé. Donc
en tout cas, qu'il y ait suffisamment de terre, de liant dans notre mélange pour qu'il se tienne. On va chercher les limites entre tenue et capacité isolante. Et la capacité, ce qui fait la capacité isolante de notre brique, c'est qu'elle a le minimum de terre. Plus il y a de terre, moins notre brique va devenir isolante.
Dans la conception de vos briques, vous prévoyez aussi des rainures et des languettes, de manière à pouvoir les imbriquer au montage. Ça aussi, c'est peut-être un aspect un peu Lego qui revient.
Et en tout cas, c'est nous, ce sur quoi on va, c'est on va chercher le matériau le plus facile à mettre en œuvre possible et le plus économique et le plus isolant. Donc, on a fait aussi ces tests de rainures languettes. C'est un petit détail en plus. On verra si ça sert à quelque chose de le conserver. Et puis tout ça, ça va être un travail qui va être de longue haleine. On refera des tests à un moment en partant de ce sur quoi on a capitalisé sur cette petite expérience de cette semaine.
Et je reviens un peu aussi sur ces briques en fonction des poids ou des dosages. Est-ce qu'il y a une estimation du poids d'une brique
Ça va forcément différer sur les doses. Le poids des briques va forcément différer selon le dosage en terre, le dosage. Le taux de compression de la brique. Il y a tout ça qui va jouer. Nous, là, pour l'instant, la seule donnée qu'on a là-dessus, c'est qu'on a pesé nos mélanges, chaque brique, pour pouvoir les comparer entre elles. On a pesé nos briques mouillées, juste avant de les mettre en œuvre dans nos coffrages. Et on va les peser une fois sèches. On sait qu'on va passer, pour la brique de 10 d'épaisseur, on va passer de 10 kilos à X kilos. Et on va pouvoir faire tous ces comparatifs entre les différents dosages, le poids à l'arrivée.
Parce que on peut l'envisager également, vous travaillez sur de la rénovation de bâti ancien, mais cette technique peut permettre aussi l'isolation sur du bâti neuf.
Il n'y a aucun contre-ordre à ça, en tout cas. On pourrait même imaginer remplacer les briques de terre paille, remplacer des moellons et faire des moellons, des agglomérés de ciment, pardon, et de les remplacer dans une ossature qui, elle, serait porteuse. La brique en elle-même reste un isolant qui n'est pas porteur.
Ce matériau que vous tentez de créer, est-ce que vous l'envisagez à être breveté également ?
Alors, on va devoir passer par là, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas que de grosses boîtes s'emparent du projet et en fassent l'enterre pour continuer à pouvoir polluer avec les laines de verre et autres. Donc, on va passer par cette étape brevet. Après, nous, là où on en est actuellement, on va déjà écrire notre projet, le ficeler. Dans un deuxième temps, on va devoir trouver des ingénieurs on a déjà plein de pistes, hein, on a déjà des contacts, mais en tout cas, trouver des gens pour nous accompagner sur la partie mécanisation du process de fabrication des BT Pie. Ensuite, à ce moment-là, il se posera la question du statut, que ce soit une entreprise, une SCOP, une association. Voilà, tout ça reste ouvert. Et
on en arrive à la fin de l'étape 1 qui est notre produit. Pour l'instant, la BT Pie, elle nous plaît. Donc, comme on essaie de faire les choses par étapes, bon, on est au courant que ça fonctionne. L'étape suivante, ça va être donc, est-ce que vraiment, au niveau thermique, ça vaut le coup de s'investir là-dedans? Et ensuite, voilà, quant à nous, il va falloir qu'on se trouve effectivement la formule qu'on va prendre pour justement créer une entreprise autour de ça. Mais voilà, et on a des gros financements qui vont être à trouver, parce qu'il faut effectivement qu'on paye des gens qui vont réussir à pondre un prototype. Et donc celle-là, ça va être la deuxième question, et ça sera peut-être l'objet justement d'une autre émission, comme tu disais, là, alors maintenant, on est dans le concret, on va chercher du pognon, des compétences qu'on n'a pas, et pour un projet qui nous semble intéressant, parce que apparemment, ça fonctionne, ça isole, c'est cohérent, ça peut être mis en œuvre, donc allons-y.
C'est inédit, hein, ce que vous proposez. Vous n'avez trouvé aucune trace d'un tel projet auparavant.
Moi, je m'avance pas là-dessus. Il y a, les gens sont tellement, tellement bricoleurs partout, partout. On sait que il y a des pays scandinaves qui ont bien, bien éprouvé la technique sous 40 formules différentes. Les Allemands s'y sont bien penchés aussi. Il y a, rien qu'en regardant sur Internet, il y a 3 ou 4 assos en France qui ont essayé de promouvoir cette technique. Et alors, est-ce qu'on est les premiers à se lancer là-dedans? Honnêtement, moi, je ne sais pas, je ne m'avance pas là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que...
Actuellement, chez notre marchand de matériaux, il n'y en a pas.
Absolument, c'est ça. Ouais.
Je crois que... Est-ce que pour donner suite à votre expérience, il y a un possible contact ou parfois vous organisez des rencontres?
Alors... Pour l'instant, tant que nous, on n'est pas monté en assos tant qu'on n'a pas formalisé notre statut et notre projet jusqu'à un certain point, on peut donner un contact, mais ce sera juste si vous avez des compétences en ingénieur mécanique et que le Terpaille vous intéresse.
Adressez-vous à la radio.
Adressez-vous à la radio qui fera le pont avec nous.
En tout cas, dans l'avenir, vous envisagerez de procéder à un financement participatif, je présume.
Alors, participatif, l'Europe, disons que nous, on est peut-être des artisans corrects, mais en revanche, on ne fait pas partie des gens qui savent rechercher des financements. Et on est au courant et on a des connaissances, en tout cas, qui savent aller chercher les financements. Donc, il n'y a pas que le crowdfunding. Comme on est aussi dans une dynamique qui est aussi en partie... qui vient du recyclage, parce qu'on va réutiliser une matière qui est issue d'industrie, qui est l'argile. On sait qu'on peut être éligible, en fait, à certains financements. Et vu qu'on a fait on est au courant que notre projet, si on doit industrialiser le process et créer une chaîne de montage, au doigt mouillé, on sait qu'on en a pour une certaine fortune. Donc on est au courant que le crowdfunding ne sera certainement pas suffisant et que l'Europe, la France, aura peut-être justement des enveloppes, au moins déjà pour le prototype, et ensuite on verra
Et la communauté de communes et la mairie pour peut-être des questions pratiques, des terrains.
Et du bâtiment.
Du bâtiment, du foncier, un peu de foncier.
En tout cas, c'est un projet qui est assez, assez important s'il doit être mené à terme. C'est un projet qui sera très, très coûteux. Mais c'est pour créer une petite industrie, pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un peu de cohérence et surtout que même si on a une super bonne idée qui fonctionne, c'est pas pour refaire un boulot d'usine complètement abrutissant. Parce que nous, on va s'y coller, mais effectivement, si ça fonctionne, on aura besoin de salariés, on aura besoin de main-d'œuvre. Et l'idée, en fait, c'est ne pas reproduire en fait, des chaînes d'usinage abominables. Donc.
Justement, cet aspect de fabrication industrielle, entre guillemets, s'il y a une production sur base fixe, est-ce que cela nécessitera aussi du transport ou alors, est-ce que s'il faut concevoir peut-être une machine industrielle sur le lieu même de son utilisation ou de la construction ou de l'isolation?
Alors, dans notre esprit, pour nous, c'est vraiment... On utilise des matières qui sont locales. La paille vient des champs d'à côté et la terre, on va récupérer la terre. Ce sont les bouts de lavage des agrégats de la carrière, de local. Pour nous, ce que disait Timothée, c'est qu'on a envie d'un outil convivial, qui soit pas démesuré, qui soit à l'échelle d'un pays. On n'a pas envie d'exporter des bouts de lavage à l'autre bout du département, c'est débile. Il existe des petites carrières qui brassent de l'argile de partout en France. C'est vraiment un des plus grands maillages qui existent dans le bâtiment sur le territoire. Et on imagine plutôt monter une structure qui soit à l'échelle d'un bassin de vie avec de toute façon des quantités de matière qui sont immenses. Mais le but, c'est pas d'aller balancer des camions dans toute la France avec une énorme usine.
Mais en revanche, pour répondre à ta question un peu d'une autre manière, ce qui est sûr, c'est que la technique qu'on a, elle pourra tout à fait être reproductible ailleurs, simplement. Et elle peut toujours être reproductible si on n'a pas envie de faire des BT paille. En fait, la technique du terre paille elle a tendance, de toutes les manières, à se démocratiser un peu partout. Et les gens, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un processus industriel à partir du moment où on a du temps ou alors de l'argent. C'est comme d'hab. Nous, c'est juste qu'on a envie de démocratiser ça.
Je reviens sur une question. La paille, pour vous, est le meilleur matériau qui se prête à ce mélange, hein.
C'est le plus disponible et le moins cher, quoi.
C'est ça, c'est que là pour l'instant on a encore de la chance de pouvoir produire des céréales dans la région. On est au courant qu'on a une certaine incertitude quant au dérèglement climatique, tout ça. On entend parler quand même que les céréales, ça va encore, mais ça galère de plus en plus. Donc de la même manière, on n'est pas encore au pied du mur. Donc on se sert de ce qui est disponible et toutes les manières, la lavande... On n'a pas envie d'essayer ça parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes... Ouais, toi, t'as envie d'essayer.
Un petit peu en paillettes dans le mélange.
Voilà, mais bon, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que la disponibilité qu'on a, c'est autour du céréal et que ça nous satisfait bien parce que de toutes les manières, on a argumenté tous nos tests autour de ça, quoi. Donc,
voilà, et c'est une tige creuse qui permet de l'air, un maintien d'air dans ce...
Oui, et puis c'est ce qu'on a de disponible dans le coin. Hein. C'est un camarade, on servirait d'autre chose.
Eh bien, Timothée et Clément, je vous remercie beaucoup d'être venus sur RDIWA. Est-ce que pour conclure l'émission, vous auriez une proposition musicale qui permet justement de rythmer votre tassement de...
Ouais, non, mais comme tu me prends toujours au dépourvu, Yves. Mais sérieux.
La prochaine chanson est spécialement dédicacée à tous les nouveaux-nés de l'année, à ceux de l'année passée, à ceux de l'année d'avant, à ceux de l'année prochaine, à ceux qui auront 20 ans quand on devra fêter ma centaine. Le but du jeu, c'est d'être heureux. Autant vous dire, autant qu'on y est, il va falloir pédaler. Dans la vie, faut 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 pédaler. Pour t'élancer. Dans la vie faut pédaler, dans la vie faut pédaler.